France Culture.
Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Un dessin animé venait de sortir sur les écrans. Le scénariste et le dessinateur de la bande dessinée à l'origine de ce dessin animé étaient reçus sur France Culture dans l'émission D'un jour à l'autre, ainsi que le compositeur de la musique, une musique qui fait rire. C'était le 21 décembre 1967 sur France Culture.
Sculpture. En direct du studio 109.
D'un jour à l'autre.
Ou d'une oreille à l'autre.
Parlez plus fort, Jean-François Noël. Une émission de Jean Jouquet préparée et présentée par
Jean-François Noël.
Et réalisée avec le concours de Bertrand Jérôme et de Gilbert Maurice Dufraisse. Au micro, Jean Chouquet, ce soir, 1. Astérix, dessin animé, devenu dessin animé. René Goscinny, Albert Uderzo, Gérard Calvi. 2. Juan Carlos Onetti, Le Chantier, préfacé et présenté ce soir pour nous par Max-Paul Fouché. Et 3. À propos de chat, par Ronald Searle. Obélix chasse le sanglier, l'un des thèmes de la musique du dessin animé Astérix le Gaulois, musique signée Gérard Calvi. Astérix, eh bien, c'est le grand phénomène de l'année, tout le monde l'a dit, mais on ne le répétera jamais assez. C'est le plus bel objet de consommation que nous ayons eu en 1967. René Goscinny, d'abord Astérix, bande dessinée pilote, ensuite tous les albums, ensuite feuilleton radiophonique, suivi assidûment par les auditeurs de France Inter, et maintenant dessin animé. René Goscinny, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles ont été les différentes formes d'exploitation, les avatars d'Astérix, comme disait tout à l'heure Jean-François Noël, oui, dans tous les domaines?
Oui, c'est très simple. D'abord, bien sûr, il a passé dans le journal pilote. Il a été replacé dans beaucoup de journaux en France, en Belgique, dans les pays francophones. Il a été traduit en 6 ou 7 langues.
Ensuite, aussi un produit d'exportation.
Mais oui, comme beaucoup de produits de consommation.
Et comment dit-on?
Mais comme ça, mais dans la langue que vous choisirez d'ailleurs, c'est ça l'union entre les peuples.
Quelle langue peut-on savoir, les différentes langues?
Eh bien, ça a été traduit en anglais, en espagnol, en italien, en néerlandais, en portugais et en allemand. Je crois que je n'en oublie pas.
Belle exportation pour l'histoire de France.
Voilà.
Et tous les petits produits, les gadgets, oui, les objets que nous voyons alors?
Eh bien, écoutez, bien entendu, nous ne nous occupons pas de cela directement. Mon éditeur a des services extrêmement compétents, mais je crois ne pas me tromper en disant qu'il y a eu environ entre 50 et 60 licences qui ont été concédées pour l'exploitation publicitaire de nos personnages.
Dans tous les domaines, ça va de...
Dans tous les domaines, c'est-à-dire nous choisissons les domaines quand même, nous n'acceptons pas n'importe quoi, nous avons un code Astérix.
Ah oui, pareil.
Ah oui, mais bien sûr, qui est extrêmement
révélez-nous,
sévère.
Révélez-nous.
Oh, mais c'est très facile. D'abord, il faut que les personnages soient très fidèles graphiquement. Il ne faut pas qu'ils sortent de leur temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de l'anachronisme. Astérix ne peut pas conduire une voiture. Obélix ne peut porter sur son dos que son menhir. Il ne peut pas porter le produit.
Et les dolmens
Les dolmens, ah oui, non, mais ça... nous en sommes au menhir. Ça, c'est un produit que nous n'avons pas encore touché. Et il y a certains produits pour lesquels, étant donné que nous nous adressons aussi, je dis bien aussi à des jeunes lecteurs, par exemple les produits alcooliques...
Oui, bien entendu.
Ils boivent de la cervoise et de l'hydromel, mais enfin, ils ne peuvent pas faire de la publicité pour une marque. Et puis, enfin, dans le code, ils ne doivent pas se mêler directement à la publicité, c'est-à-dire ils ne doivent pas dire « mangez ceci, mangez telle marque ».
Ah, et buvez des lotions pharmaceutiques.
Des lotions pharmaceutiques.
Des potions magiques.
Ah oui, bien sûr. On nous a demandé également le personnage pour des médicaments et nous n'avons pas voulu accepter parce que nous ne voulons pas que quand les enfants penseront au personnage, ils pensent à un médicament plus ou moins agréable à
par exemple absorber. L'huile de ricin.
Par exemple l'huile de ricin, j'allais dire.
Qui était chère aux enfants.
Comment est né Astérix? Je crois que Max-Paul Fouché, qui est avec nous, a une idée à ce sujet.
Oui. Ah, bah écoutez, moi je vais vous dire une chose, c'est que je suis enchanté du succès d'Astérix, parce que je suis gaulois, et que je ne suis pas romain. Et je suis même farouchement et désespérément gaulois, et anti-romain d'une façon totale, et même je dirais totalitaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les Romains, d'abord, sont des militaires... et aussi des juristes. Alors, bon, vous savez, vive les juristes. Pour les autres, je ne dirai rien, speakeront. Bien entendu, et parce que ces Romains, à mes yeux, ont tué toutes les cultures locales. Vous voyez, tout de suite, on devient sérieux. Hein. Et particulièrement, ils ont essayé de faire disparaître la culture gauloise, plus exactement la culture celtique, puisqu'après tout, les Gaulois sont des Celtes. Enfin, bon. Or, moi, j'ai eu un maître autrefois à l'université qui m'a appris que si Rome a existé, c'est grâce aux Gaulois. Ah, ça a l'air de vous étonner, ça. Ouais. Si. Ce maître... Or, ce maître, c'était M. Carcopino, qui est, comme vous le savez, une sommité, une autorité en la matière. Il faisait cette démonstration extrêmement juste et brillante. Rome était une bourgade qui végétait, qui n'arrivait pas surtout à écraser sa grande rivale, la puissance étrusque. Et c'était plutôt les Étrusques qui menaient la vie dure aux Romains. Alors, les Gaulois arrivent en Italie, pour tout simplifier. Ils rencontrent qui, d'abord? Les Étrusques. Et ils les battent à plate couture. Après quoi, ils taquinent un peu les Romains, et puis ils repartent. Mais une fois qu'ils sont repartis, la puissance étrusque est démolie, alors Rome peut étendre son pouvoir sur toute l'Italie. Ce n'est pas de l'histoire avec des si, n'est-ce pas? C'est tout à fait exact, cette démonstration. Et puis, on peut la poursuivre dans bien d'autres domaines. Ces Romains, par exemple, ne sont pas fous du tout. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas de poète. Alors, voulez-vous me dire quel grand poète romain? Ah, vous allez me dire Virgile. Voyons, soyons sérieux. C'est un Gaulois. Ah, c'est un Transalpin, tout de même. Ah, bien. Savez-vous aussi que... ces pauvres Romains ne pouvaient pas être fous, et là je vous donne la contradiction, si je puis dire, parce qu'ils ne savaient pas conserver le vin. Ils conservaient le vin dans des récipients de terre, n'est-ce pas, dans des amphores. Or, tout le monde sait que le vin ne vieillit pas dans de la terre, n'est-ce pas, Jean-François Noël? Ça, c'est pas possible. Il faut de la barrique, n'est-ce pas, il faut du bois. Eh bien, les Gaulois ont appris aux Romains à conserver le vin. Et puis enfin, il y a des choses peut-être plus importantes. Les Romains, qu'est-ce qu'ils aiment avant tout? Le plus court chemin d'un point à un autre, c'est-à-dire celui qui fera que leurs légionnaires écrasent plus rapidement les pays qu'ils conquièrent, n'est-ce pas? La ligne droite, ça c'est romain. Tandis que les Gaulois, ils aimaient plutôt la ligne du rêve, celle qui est courbe, qui s'en va comme une fumée. Enfin, je crois que pour les Gaulois, le plus court chemin d'un point à un autre, c'est le rêve. Voilà pourquoi j'aime les Gaulois, pourquoi je suis pour Astérix. Et je l'ai tellement, à tel point d'ailleurs que j'ai fait, il y a 4 ans, un film de télévision qui s'appelait Les Origines de l'art en France.
Nous y voilà.
Nous y voilà. Et je me suis toujours, il y a même 5 ans, je me suis même demandé si c'était pas ça qui, au fond, vous avait inspiré.
Répondez.
Ah ben, je crois que c'est mon ami Uderzo.
Je me souviens très bien de votre émission qui était admirable d'ailleurs. Je vous signale cependant qu'Astérix existait déjà depuis 4 ans.
Ah oui, mais ça, oui. Ça ne fait rien.
Vous nous avez encouragé. Je dois dire d'ailleurs que votre émission a été vraiment très bien pour moi parce que j'ai su comment étaient faites les sculptures gauloises. C'est-à-dire que j'ai dessiné à partir de votre émission des sculptures à 3 têtes, puisque les dieux gaulois auraient été représentés par 3 têtes. Vous voyez que je me souviens de votre émission.
Oh, c'est formidable.
Et ça a été très utile pour moi.
Et vous ne pouvez pas savoir, j'ajoute simplement ceci, j'en souviens une toute petite seconde, comme ce film a retourné les Français. On a reçu de partout des lettres disant « Mais nous ne savions pas que les Gaulois étaient des artistes ». Et ça, vraiment, c'est une erreur qui vient de ce que l'on nous apprend dans les classes de lycée, collège, école communale, n'est-ce pas ? La preuve en est, c'est que nous sommes arrivés un jour à Alice-Sainte-Reine, et là, dans une école, nous avons entendu lire par un élève le texte du cours élémentaire dans lequel on disait que les Gaulois ne savaient que se disputer et faire de la politique. Heureusement, les Romains leur apportèrent de belles choses. Et en face, il y avait une illustration abominable où on voyait la pacotille de très mauvais goût, parce que les Romains avaient vraiment très peu de goût, c'est d'une façon générale, qu'on apportait à nos pauvres Gaulois. Alors, nous avons fait ceci, nous avons cherché des œuvres gauloises, n'est-ce pas ? Nous les avons agrandies parfois, nous les avons mis devant des découvertes photographiques de Brasilia. Et les gens ont dit, c'est formidable, n'est-ce pas ? Ces Gaulois ont inventé Picasso.
On a toujours besoin d'un petit Gaulois chez soi.
Ah, absolument.
René Goscinny, je voudrais savoir comment vous avez défini psychologiquement votre Gaulois moyen.
Eh bien, le Gaulois moyen, tout d'abord, je l'ai défini en pastichant les premières pages de nos livres d'histoire. C'est-à-dire qu'au départ, il est bagarreur, rigolard, ripailleur, truculent. Et puis après, au fur et à mesure que nous faisions l'histoire, eh bien, nous avons pris quelques-uns des problèmes du Gaulois de nos jours et nous l'avons transformé un petit peu. Il est, disons, il est assez désordonné, il ne fait pas beaucoup de projets, il est désordre.
Il est très astucieux.
Ah ben oui, dans le, vous savez, il faut, quand on fait une histoire, il faut qu'il y en ait au moins un qui soit vaguement intelligent. Mais il est entouré d'une collection d'abrutis assez remarquables, sympathiques d'ailleurs. Il y a des abrutis très sympathiques. Mais ce qu'il y a de bien, justement, je crois, ce qui nous amuse de faire, c'est de les montrer tous en train de discuter assez gravement d'une situation, prendre la mauvaise solution et partir résolument. C'est ça qui est drôle, sinon ça devient un cours de l'ENA.
Revenons au problème Astérix, dessin animé, maintenant devenu dessin animé. Albert Uderzo, je crois qu'il y a une démarche, et la démarche qui a été suivie n'est pas celle qu'on suit normalement dans ce domaine.
Oui, c'est exact. D'habitude, on prend plutôt le sujet d'un film et d'un dessin animé pour en faire une bande dessinée.
C'est ça.
Alors là, c'est l'inverse qui s'est produit, ce qui a facilité tout de même les choses. D'abord, sur le plan scénario, le scénario était prêt.
Le scénario, c'est René Goscinny.
C'est René Goscinny, évidemment. Ensuite, les personnages, graphiquement aussi, étaient prêts. Cependant, il y a eu tout de même un petit travail d'adaptation, parce que d'une image fixe et statique, pour la faire bouger, ça demande tout de même d'abord des spécialistes du dessin animé, que nous ne sommes pas, ni l'un ni l'autre, mais ça demande surtout une équipe, et beaucoup d'argent, évidemment. Oui.
Il n'existait pas en France, d'ailleurs, je crois. Enfin, avant vous.
Non.
Non, ça n'a pas été fait en France, d'ailleurs.
C'est-à-dire que si, il y a eu en France, il y a eu une équipe, qui est l'équipe de Paul Grimaud, qui a fait parler d'elle en son temps, et qui a fait, Grimaud a fait des films merveilleux dans son temps, et qui ont marqué dans l'histoire cinématographique du dessin animé.
Eh bien, nous écoutons la marche célèbre d'Astérix le Gaulois avant d'interroger Gérard Calvi.
Thank you.
Oui, Max Fouché, vous avez raison. Les Gaulois étaient des gens très bien, d'ailleurs. Goscinny et Uderzo nous le prouvent. Gérard Calvi, vous, les succès ne vous font pas peur.
Je ne ferai pas.
De Robert Derry à René Goscinny, pour vous,
les... Eh ben, vous savez, je choisis mes auteurs. En tout cas, ils ont la gentillesse de me choisir.
Bon. Et pour vous, enfin, dans ce... D'abord, vous avez fait donc la musique de l'émission radio de toute la série de feuilletons qui sont passés sur France Inter, réalisée par notre ami Claude Dupont, ici présent. Et pour en arriver à la musique, justement, du dessin animé.
Eh bien, c'est la musique du dessin animé. Je voulais dire que j'avais fourbi un petit peu mes armes. J'avais trouvé le style en travaillant pendant un certain temps sur le feuilleton. Ça m'a été très utile. D'ailleurs, j'ai réutilisé le thème générique. Parce que moi, à mon avis, maintenant, je ne peux plus faire autrement que d'écrire ce thème pour Astérix et Obélix. C'est vraiment lié dans mon esprit.
Et alors, vous avez le secret de faire d'écrire de la musique plus exactement qui fait rire. Comment faites-vous?
Eh bien, j'essaye d'écrire, effectivement. Je pense, je cherche à écrire de la musique qui doit faire rire. C'est-à-dire, j'emploie un système qui j'utilise la fausse... Je prends une idée,
voilà,
une idée qui s'impose, une idée très simple, et je joue avec, je mets des fausses notes, je fais joujou avec. Alors, comme je m'amuse avec, de cette idée très simple, je crois qu'en principe, les gens doivent rire de cette musique.
Jean-François Noël...
Est-ce que vous faites du mot à mot? Je veux dire, est-ce que... par exemple, je suppose que je n'ai pas vu le film, mais je connais très bien les bandes de Goscinny. Est-ce que vous suivez l'image?
Eh bien, dans
vraiment de la musique d'accompagnement.
Dans des cas très précis, on peut dire que la musique est absolument liée à l'action.
Et au gag.
Oui, parce que pour une raison très simple, c'est que le rythme du dessin tient compte du rythme de la musique. Et il y a dans d'autres circonstances, quand le dessin est fait le premier, le rythme de la musique m'est donné par le dessin.
Il faut un très grand métier, enfin je veux dire une très grande...
Non, il faut un bon chronomètre.
et nous pouvons dire que toute la France maintenant va pouvoir voir Astérix le Gaulois, le premier album, parce qu'en fait c'est le premier album. La France, la Belgique et la Suisse d'ailleurs simultanément, vous ne reculez devant rien, vont pouvoir voir Astérix en dessin animé.
Pour ce qui est du dessin animé, ma fille Marianne, qui a 7 ans et demi, l'a vu l'autre soir la présentation. Bien que ce fût une représentation en nocturne, n'est-ce pas? Et dès le lendemain, les effets de ce spectacle n'ont pas tardé à se faire sentir. Elle prenait diverses choses dans l'appartement et disait « je porte un menhir ». Le résultat, c'est qu'une charmante petite cruche a été cassée.
Étrusque ou gauloise?
Oh, pas gauloise.
C'est fragile, les menhirs, on les bouscule. Il faut faire attention,
mais oui, mais bien
sans planter à Carnac.
Bien pas. Sûr.
Une danse de Villa-Lobos.
Un roman, Le Chantier, de Juan Carlos Zanetti, je prononce mal, préfacé par Max-Paul Fouché. Qui est Juan Carlos Zanetti, Max-Paul Fouché?
Zanetti est un des plus grands écrivains d'Amérique latine, l'un des plus célèbres aussi, et cependant que j'étais dans ces pays, j'entendais toujours parler de lui, presque autant que de certains autres grands écrivains, presque autant même que Borges, par exemple, qui, vous le savez, est l'un des maîtres de la littérature contemporaine. Mais je n'avais rien lu de lui. Il a fallu que je revienne en France pour lire El Astillero, c'est-à-dire Le Chantier, qui vient de paraître en français. C'est un homme qui est né en 1909, si je ne me trompe, et qui est né à Montevideo.
Ce qui fait...
vous savez que c'est l'Uruguay. Bravo, bravo, parce que la plupart des critiques disent qu'il est né à Montevideo, donc il est argentin. Les Français savent la géographie, c'est parfait ça. Et puis encore, que voulez-vous savoir sur lui ? Il est aujourd'hui conservateur de toutes les bibliothèques de l'Uruguay. C'est un personnage très officiel qui a eu tous les prix, les médailles, enfin... Laurent Séjour, le prix Nobel.
Ce qui importe, c'est son livre. Or, ce livre est très difficile à raconter. Et je voudrais que vous esquissiez quand même le thème.
Eh bien, voilà, n'est-ce pas? Nous nous trouvons au bord d'un de ces fleuves qui sont si grands qu'ils ne paraissent plus des fleuves, puisqu'on n'en voit pas l'autre rive. Disons que c'est un peu le Rio de la Plata, mais un Rio de la Plata transfiguré par l'auteur, par le poète Onetti. Et là, il y a une petite ville qui s'appelle Santa Maria, tout à fait pouilleuse, comme il y en a d'ailleurs dans tous ces pays, des cabanes au bord du fleuve. Il pleut toujours, d'ailleurs, il pleut toujours. Il pleut beaucoup dans ce livre, d'ailleurs, je le dis.
Tout le temps.
Et un peu plus loin, il y a un chantier. Un chantier qui est, au fond, abandonné. Il y a des grues qui se dressent vers le ciel dans une sorte de geste d'imploration, comme si ces instruments métalliques demandaient à quelques dieux locaux de pouvoir un jour retrouver de l'activité. Tout cela sous la pluie, nous le disons. Et arrive là, dans ce décor désespéré, dans ce décor de déréliction, comme on dit en beau langage, lorsqu'on a du vocabulaire, arrive un personnage qui s'appelle Larsen. Il arrive là un peu en rasant les murs. On ne sait pas très bien qui est Larsen. On ne le saura jamais très bien. Et on sent que son passé a été... lourd, puisqu'il a un sobriquet, pousse au crime. N'est-ce pas, ce qui tout de même n'est pas tellement angélique. Faut bien
il dire. Arrive sans faire d'effet.
Et là, il arrive comme ça, il va s'installer. Mais il a une idée bien fixe, n'est-ce pas? C'est de reprendre, si vous voulez, ou d'entrer dans cette entreprise du chantier, l'entreprise qui appartient à un certain Jérémias Petrus, entreprise qui est en liquéfaction, en faillite, n'est-ce pas? D'abord parce qu'il pleut, ensuite parce que Jérémias Petrus n'a jamais payé ses créanciers. Bref, il veut être un homme de cette entreprise et épouser d'ailleurs la fille de Jérémias Petrus et entrer dans la belle maison, qui est pourtant ruineuse, en ruine, de Jérémias Petrus.
Et la fille qui est d'ailleurs totalement demeurée.
Elle est dingue, oui. Elle est folle. Ça, il n'y a pas de doute, mais elle a beaucoup de poésie grâce à cela, n'est-ce pas? Mais me direz-vous, comment peut-on entrer dans une entreprise qui est morte? Eh bien, elle n'est pas tout à fait morte, parce qu'il y a des gens qui sont encore là et qui font semblant. Ils font semblant de travailler dans cette entreprise qui est morte. On dirait que l'entreprise vit toujours. C'est ainsi qu'à la fin de chaque mois, deux personnages, un comptable et un employé principal, Kunz et Grives, n'est pas c'est leur nom, se payent leur salaire, ou plus exactement, se font des bons pour être payés un jour. Ils ne seront jamais payés, bien entendu. Et puis, ils font des rapports sur d'anciennes affaires. Et Larsen rentre dans cette espèce de farce sinistre, sombre. Nous n'allons pas dire que c'est un livre triste, ça écarterait trop de lecteurs, alors que c'est un admirable livre. Nous dirons que c'est un livre prenant. N'est-ce pas? Vous savez, il y a une nuance entre un livre prenant et un livre triste. Alors, c'est un livre très prenant. On est englué par ce décor et par ces personnages et par l'absurdité de la situation.
Mais à mon avis, c'est beaucoup plus important que L'étranger de Camus.
Ah, mais en parlant de L'étranger de Camus, il me semble que vous donnez là une des raisons, si vous voulez, d'aimer et de s'intéresser au livre de Juan Carlos Onetti, au chantier, parce que le personnage de Larsen est un étranger. Tout lui est égal. Vous me direz que c'est contradictoire avec ses ambitions et ses intentions. Non, au fond, il vient là parce que ferait-il d'autre? Eh bien, il est conscient de l'absurdité de vouloir reprendre une entreprise qui ne sera pas sauvée. Il est conscient aussi de la folie et de la fille de Jérémias Petrus. Il est conscient que tout dégringole dans ce coin du monde. Mais si ça ne réussit pas, ben ça ne réussit pas. Il a toujours un revolver dans sa poche. Et si ça ne réussit pas, eh bien il pense qu'il pourra s'envoyer une balle dans la tête. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle là-bas un desplazado, n'est-ce pas ? Un déplacé, si vous voulez. Au fond, c'est un étranger, n'est-ce pas ? C'est la même chose.
Je vois encore plus loin. C'est l'homme qui ne veut pas s'engager dans la vie.
Ah non, il ne veut pas du tout, parce que la vie lui paraît d'abord absolument absurde, n'est-ce pas ? Et justement, Juan Carlos Onetti a écrit quelque chose de très très juste sur ce genre de personnage. Le fait est que dans le pays le plus important de l'Amérique du Sud, ça croît le type de l'indifférent moral. Voilà, l'indifférent moral. L'homme sans foi ni intérêt pour son destin. Et ça, c'est une définition de ce Larsen, c'est une définition de son personnage. Alors, dit Onetti, qu'on ne reproche pas au romancier d'avoir envisagé la peinture de ce type humain avec un grand esprit d'indifférence.
Merci, Max Poitouche.
Écoutez, bonnes gens, la cruelle et douloureuse histoire du frère Dalton, qui furent l'incarnation du mal, et que ceci serve d'exemple à tous ceux que le diable écarte du droit chemin. Tout petit à l'école,
à la place de crayon, ils avaient des limes, en guise de cravate, des cordes de lin. Ne vous étonnez pas, c'est leur tout premier crime d'avoir fait mourir leur maman de chagrin. Tagada, tagada, voilà les Dalton. Tagada, tagada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tagada, tagada, y a plus personne.
Les années passèrent.
Ils s'étaient débrouillés pour attraper la rage et ficeler le docteur qui faisait les vaccins et les contaminer les gens du voisinage, s'amusant à les mordre, bien accuser les chiens. Tagada, tagada, voilà les Dalton. Tagada, tagada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tagada, tagada, il n'y a plus personne.
Ils devinrent des hommes.
Un conseil, mon ami, avant de les croiser. Embrasse ta femme, serre-moi la main. Vite sur la vie, va te faire assurer. Tranche-toi la gorge et jette-toi sous le frein. Tagada, tagada, voilà les Dalton. Tagada, tagada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tagada, tagada, y a plus personne. Les jours, leur tête augmentait de 20 centimes.
Des centimes américains.
Ils étaient vaniteux et avides d'argent. Ils se livrèrent eux-mêmes pour toucher la prime. Car ils étaient encore plus bêtes que méchants. Tagada, tagada, voilà les Dalton. Tagada, tagada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tagada, tagada, y'a plus personne.
Joe Dassin et Dalton, vous vous sentez encore coupable, René Goscinny ?
Eh oui, un peu quand même.
René Goscinny, vous savez, nous sommes sur France Culture et notre émission est pour les enfants, certes, mais aussi pour les grands. Et vous savez que les bandes dessinées aujourd'hui passionnent enfin, beaucoup de gens et deviennent un objet de culture également. Alors, nous voudrions connaître un petit peu vos œuvres complètes.
Mes œuvres complètes, oh, il y en a beaucoup. Ça fait 20 ans que je fais ce métier à peu près. Eh bien, avec Sampé, nous avons fait Le Petit Nicolas.
Oui.
Avec Uderzo, Oumpapa et Astérix. Avec Maurice, Lucky Luke.
Oui.
Ce sont, je crois, les principales.
Les interludes.
Et les interludes, alors ah, ce n'est pas une bande dessinée, c'est d'un admirateur de la télévision.
Hélène Tournay, vous feuilletez un album, je crois, qui intéresse aussi Albert Uderzo et René Goscinny.
Un album paru chez Fayard, qui s'intitule « De drôles de chats » et qui est dessiné par Ronald Searle, qui présente beaucoup de choses qui sont à voir et non pas à dire. Mais j'aime beaucoup le portrait du chat gourmand d'extrême droite essayant de digérer l'aile gauche d'un poulet. Et ça me paraît... Ainsi que regardez René Goscinny, cette chatte exceptionnellement brehaigne essayant de couver un œuf morfondu. Que pensez-vous d'Erzo de Ronald Searle?
Vous savez, il m'est très difficile d'analyser un confrère, tout de même c'est un maître. Et il m'est surtout très difficile de parler de quelque chose que j'aime, parce que j'aime et on ne sait pas très bien pourquoi on aime finalement quelque chose, mais tout ce que je peux dire c'est que graphiquement parlant, c'est vraiment un maître.
Et vous, Goscinny ?
Oh, moi, j'ai toujours aimé Ronald Searle. Je connais ses dessins depuis très très longtemps, depuis ses petites filles de St. Trinian's qui sont étonnantes. Il a illustré des livres formidables. Il vient de faire un livre sur la main. Il a un sens de la caricature extraordinaire. Je me souviens d'un dessin où il parlait des différentes façons de faire la cuisine pour les hommes, où il y avait un jeune homme extrêmement distingué et snob qui faisait une amusante petite sauce.
Ce soir, nous remercions Max-Paul Fouché, René Goscinny, Albert Uderzo, Gérard Calvi. C'était D'un jour à l'autre, émission de Jean Chouquet préparée et présentée par Hélène Tournaire et Jean-François Noël, et réalisée avec le concours de Bertrand Jérôme et de Gilbert Maurice Duprez.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 décembre 1967. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
De tous ses copains du cirque forain, pas un n'avait dit au vieux funambule qu'il était aussi parfois somnambule. Ça n'aurait servi strictement à rien. Le public partit quand la lune dehors, à travers les trous de la vieille toile, allumait un ciel tout rempli d'étoiles. Le vieux funambule arrivait alors. Qui n'était pas tellement sûr de lui, qui souffrait des reins, qui avait des vertiges, était tout changé, c'était un prodige. Oui, c'était vraiment le jour et la nuit. Plus besoin d'ombrelles ou de balancier, les sauts périlleux devenaient faciles. Il était gracieux, il était agile, comme un demi-dieu sur son fil d'acier. Ce fut ainsi qu'un enfant le vit, un enfant puni ou un fils de pauvre, qui s'était glissé dans l'odeur des fauves et qui le suivait d'un regard ravi. Spectateur fortuit de ce numéro, l'enfant applaudit à tant de merveilles, mais un somnambule, quand on le réveille, comme un funambule, ça tombe de haut. Tous ses copains du cirque forain, pas un n'avait dit au vieux funambule qu'il était aussi parfois somnambule. Les gens du voyage sont des gens très bien.